Hier fois, il me semble bien, nous avions regardé le point de vue de la blessure du péché en essayant d'entrer dans ce que l'Écriture nous montrait sur la première tentation. Comment cette première tentation est comme un détournement de ce que représente la véritable finalité que Dieu avait donnée à Ève et à Adam, finalité d'ordre d'amour, réalisée par le point de vue de l'obéissance et dans l'obéissance. Et ce détournement consistait à dire « Vous serez comme des dieux par la connaissance du bien et du mal. » Et je crois que c'est cela qu'il faut essayer toujours de comprendre, comment la faute première, telle qu'elle nous est présentée dans l'Écriture, alors pour le philosophe, ça fait une tradition religieuse très fondamentale. On voit ce passage entre le point de vue de l'obéissance ordonnée à l'amour, à la recherche d'une connaissance placée au-dessus de tout, la connaissance du bien et du mal. Si on voulait creuser un peu, ce serait très intéressant, parce qu'alors on verrait tout de suite deux types d'éthique. L'éthique telle qu'elle est présentée fondamentalement à travers toute l'Écriture. Alors on pourrait dire l'éthique réaliste est de fait en conformité avec tout ce que représente la tradition religieuse judéo-chrétienne. Je me place toujours du point de vue philosophique, hein. Je ne me place pas du côté de la foi, parce qu'alors au point de vue de la foi, ce serait dit d'une façon beaucoup plus directe. Mais du côté philosophique, j'ai le droit, je vous l'ai déjà dit, je le redis, j'ai le droit de considérer ce qui m'est donné dans l'Écriture comme une tradition religieuse extrêmement vénérable et extrêmement importante, puisqu'elle a joué un très très grand rôle dans l'humanité. Et je considère cette tradition religieuse judéo-chrétienne comme me montrant un aspect important de l'éthique, c'est-à-dire un aspect important de l'homme finalisé. Alors, je peux dire qu'à travers toute l'Écriture, nous voyons bien que l'éthique, dans son réalisme, est fondée sur le point de vue de l'amour, c'est-à-dire la finalité qui me rejoint, qui me permet de rejoindre mon bien, ce qui me permet à l'homme de s'épanouir pleinement dans une obéissance à l'égard des commandements de Dieu, ou dans une obéissance à l'égard du commandement de Dieu, puisque avant que les commandements de Dieu soient donnés par Moïse, on peut dire qu'on est en présence uniquement d'un commandement de Dieu, un commandement de Dieu, le seul qui est révélé immédiatement, c'est « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre placé au milieu du jardin ». On ne précise pas plus, ça reste symbolique, d'un symbolisme divin, mais très intéressant, qui montre cette condition pour rester fidèle dans une obéissance au sens très fort, puisque c'est l'obéissance à l'égard des préceptes négatifs qui est toujours la plus forte. C'est toujours quand on vous dit « ne pas faire ceci » que vous êtes obligé d'obéir pleinement. Quand on vous dit « faites ceci », ça va mieux. Tandis que la négation oblige toujours d'aller plus loin. De fait, on se trouve en face de cette éthique finalisée par l'amour et l'autre éthique qui se fonde sur la connaissance du bien et du mal. L'homme devenant mesure de toute chose, puisque c'est lui qui va pouvoir déterminer le bien et le mal. Et je crois que c'est ça qui est de très important dans ce qui nous est montré dans cette première tentation. C'est qu'on voit bien une nouvelle orientation. Il faudra se demander au point de vue philosophique si de fait nous retrouvons au point de vue philosophique ces deux orientations. Mais nous la voyons telle qu'elle nous est donnée dans la Genèse. Une éthique d'amour, une éthique de connaissance. Voyez ? Alors vous voyez déjà tout de suite quelque chose de très très particulier qu'on retrouve dans la philosophie grecque. Une éthique de connaissance, c'est Platon. Une éthique d'amour, ce sera beaucoup plus Aristote. Et on retrouvera, je crois, constamment ces deux aspects-là. Alors, il faudrait voir chez les modernes si on retrouve quelque chose d'analogue. Mais chez les anciens, c'est très net. Pour Platon, le péché, la faute, c'est une ignorance. Elle ne provient que de l'ignorance. C'est toujours l'ignorance qui est source du mal. Pour Aristote, c'est une mauvaise volonté. C'est un faux amour. C'est un amour qui exalte l'homme au-delà de ses limites, ce sera l'orgueil. Alors je crois que nous pouvons tout de suite regarder cela de cette manière. C'est qu'on voit que la faute, la déviation à l'égard de ce qui est l'épanouissement normal de l'homme, la déviation, c'est le repliement sur soi, dans une exaltation de la connaissance. Et l'exaltation de la connaissance au-delà de l'amour, c'est ce qu'on peut appeler l'orgueil, ce que les Grecs appelaient l'hubris, l'homme qui s'exalte. L'homme, en s'exaltant, devient mesure de toute chose. Et donc vient la mesure du bien et du mal. C'est très important de saisir cela. Est-ce que dans toute faute d'orgueil, est-ce qu'on trouve cela ? Est-ce que c'est le propre de l'orgueil de mettre l'exaltation de l'intelligence au-delà de l'amour ? C'est une question que saint Thomas se pose, et c'est une question très très difficile. Qu'est-ce qui est premier, le point de vue de la connaissance ou le point de vue de l'amour ? Qu'est-ce qui est premier, l'intelligence ou la volonté ? Saint Thomas, devant des questions extrêmement difficiles comme celle-là, ne tranche jamais d'une façon absolue. Parce qu'il n'a pas à trancher d'une façon absolue. Et saint Thomas nous dit, du côté de la noblesse, l'intelligence passe avant, et du côté pratique, c'est-à-dire de la causalité, la volonté passe avant. Et je crois que c'est très intéressant, ça. C'est de montrer que du côté de la noblesse, l'intelligence a quelque chose de plus noble. La nobilitas, chez saint Thomas, c'est la qualité. La nobilitas, la noblesse, c'est le point de vue, si vous voulez, on pourrait dire, une qualité supérieure. Je crois que ça se traduit bien quand on dit une qualité supérieure. Quand vous dites une personne de qualité, c'est quelqu'un qui a de fait cette noblesse qui fait qu'il est supérieur aux autres. L'intelligence a une noblesse unique. Et saint Thomas souligne, grâce à l'abstraction, alors elle s'élève au-dessus des choses diverses. Et grâce à l'abstraction, elle a cette noblesse unique. Tandis que la volonté, elle, passe avant l'intelligence du côté pratique, du côté de l'exercice. Donc, du côté de la cause finale. Par la cause finale, la volonté a un primat sur l'intelligence. De sorte que, dans l'ordre pratique, l'amour est supérieur à la connaissance. Dans l'ordre spéculatif, proprement dit, dans l'ordre de la recherche, La connaissance est évidemment avant. De sorte que je ne peux pas dire d'une façon absolue que l'orgueil, c'est le primat de l'intelligence sur sur l'amour. Je dois préciser, l'orgueil, c'est mettre l'intelligence toujours avant l'amour, même dans l'ordre pratique, et de considérer que l'intelligence passe devant. Donc l'exaltation de l'intelligence comme telle, sans reconnaître que dans l'ordre pratique, l'amour a quelque chose d'unique. Donc, voilà, je crois, le côté extrêmement intéressant pour nous, au point de vue proprement philosophique, dans cette première tentation. Si je regarde maintenant, très rapidement, les quelques tentations qui sont présentées dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Les 11 premiers chapitres de la Genèse sont ponctués par le péché. Je vous le rappelle, donc Ève qui est séduite par le démon, ensuite nous avons la jalousie de Caïn par rapport à Abel, et cette jalousie conduit Caïn au meurtre. C'est le premier fratricide. Et c'est le premier homicide. Le premier homicide, selon l'Écriture, se présente comme un fratricide. C'est quand même très curieux et intéressant. Et ce fratricide et cet homicide est provoqué par la jalousie. Ensuite, vous avez l'iniquité généralisée qui appelle, du côté de Dieu, cette peine générale qu'est le déluge. Et en dernier lieu, vous avez la tour de Babel. Alors, si vous voulez, on va réfléchir un tout petit peu sur ces quatre moments au plan philosophique. Je souligne pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. En théologien, on dirait un petit peu autre chose. Mais au plan philosophique, ce n'est pas des choses qui seraient en contradiction, mais ce ne serait pas tout à fait le même plan. Alors, il faut essayer d'avoir une lecture philosophique de la Bible. C'est possible et c'est très intéressant. C'est pas étonnant parce que c'est le livre le plus intelligent qui soit. Je peux dire ça en tant que chrétien, qu'il n'y a pas de livre plus intelligent que la Bible. Donc, pour le philosophe qui essaie d'être intelligent, il vaut mieux qu'il regarde ce livre-là que beaucoup d'autres. Et qu'il essaie de lire la Bible pour essayer de s'instruire, pour découvrir la dimension de l'homme. Il verra ensuite si dans son expérience humaine, il retrouverait exactement les mêmes choses. Et ce qui est admirable, c'est que quand vous faites cela à travers la Bible, vous voyez que votre expérience humaine colle parfaitement. Ce qui est normal, du reste. Hein. Je pourrais le dire d'avance, mais il est bon de le faire soi-même. Hein. C'est ce que saint Thomas dit quand il dit « Peut-il y avoir une contradiction entre ce que la foi nous dit et ce que l'intelligence nous dit ?» Ce que la philosophie nous dit. Et saint Thomas nous dit « Il ne peut pas y avoir de contradiction puisque c'est le même auteur qui est source de l'intelligence et source de la foi. » Quand je crois qu'il y a un conflit entre la philosophie et la foi, c'est parce que ou je suis un mauvais croyant, où je suis un mauvais philosophe. Alors le conflit peut arriver, parce qu'on peut quelquefois être un mauvais croyant, c'est-à-dire un croyant qui n'est pas assez croyant, qui s'arrête à mi-chemin. Alors à ce moment-là, il risque de durcir les positions de la foi. Vous savez, il y a des croyants qui ne sont pas toujours très intelligents. Ça arrive. Ils sont admirables de naïveté, mais justement, ils ne sont pas assez croyants. Et ils ne vont pas jusqu'au bout de ce que représente la foi. Alors à ce moment-là, il peut y avoir une espèce de dualisme et d'opposition entre la philosophie et la foi. Mais si je creuse ma foi et si je creuse ma philosophie, il n'y a pas de danger. de sorte que la lecture philosophique de l'Écriture doit me donner, si vous voulez, un approfondissement sur ce que c'est que l'homme, d'une manière très étonnante. Et ça rejoint l'expérience que je peux en avoir au point de vue philosophique, au point de vue humain. Donc, regardons ces quatre moments. Le premier, l'orgueil. Je n'y reviens pas, nous l'avions vu la dernière fois. C'est très important de voir que la première faute, c'est l'orgueil. Et je crois qu'on peut dire au plan philosophique que tout le mal provient de l'orgueil. Ce serait une très belle thèse, au point de vue philosophique, de montrer que tout le mal provient de l'orgueil. C'est-à-dire l'exaltation de l'intelligence qui n'accepte pas que l'amour puisse passer devant dans l'ordre pratique. Au fond, dans l'orgueil, il y a toujours une cérébralisation. Au point de vue psychologique. Toujours. Un orgueilleux est toujours un cérébral. Il lui manque du cœur. Il manque cette espèce de rectification profonde de l'amour par rapport à la réalité. Alors, il s'exalte lui-même. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une cérébralisation. Il s'exalte lui-même. Il s'exalte dans ses propres idées, dans ses propres opinions. Puisque, de fait, il ne peut apprendre de personne que de lui. L'orgueilleux, ça va jusque-là. L'orgueilleux n'accepte pas d'apprendre de quelqu'un d'autre. Donc il n'accepte pas de voir ses propres limites. Il ne se ferait pas sa propre critique. Et donc il s'exalte. Pour nous, hommes, on n'est jamais orgueilleux tout seul. C'est ce qui permet de se convertir. On est orgueilleux toujours en se laissant prendre par les tentations du démon. Je dis ça au point de vue théologique. Au point de vue philosophique, je ne pourrais pas le dire. Mais au point de vue théologique, je peux dire que nous ne pouvons jamais être orgueilleux tout seul. On se laisse séduire par une intelligence supérieure à la nôtre. Et se laissant séduire par une intelligence supérieure à la nôtre, qui est elle-même orgueilleuse, on entre dans ce sillage de l'orgueil. Et on laisse tomber l'amour. Et c'est pour ça que toute philosophie qui ne veut plus regarder le point de vue de l'amour, et qui ne peut plus regarder de l'amour, naît nécessairement d'une exaltation de l'intelligence et d'un orgueil. Donc, première faute, l'orgueil. Seconde faute, la jalousie. La jalousie religieuse et fraternelle. Et alors, c'est mis admirablement dans ce texte de la Genèse, c'est montré d'une façon très étonnante, parce que nous voyons comment Caïn et Abel, après la faute, après avoir été chassés du paradis terrestre, tous les deux font le même geste, ou un geste semblable, offrir à Dieu les prémices ou de leurs troupeaux ou de leurs travaux de paysans. Alors, c'est aussi très intéressant de noter ça. C'est qu'on voit que le sens religieux n'est pas disparu avec le péché premier. Caïn et Abel gardent un sens religieux, puisque de fait, il y a cette liturgie très simple, mais cette liturgie en même temps très belle, cette liturgie de l'adoration, et d'offrir à Dieu les prémices de son labeur. Ça, c'est un sens religieux merveilleux de comprendre qu'il faut offrir à Dieu les prémices de son travail, qu'il s'agisse de celui qui est berger ou de celui qui est agriculteur. Ça, c'est secondaire, ça, je crois. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que tous les deux offrent à Dieu les prémices de leur labeur. La diversité, elle va se faire dans les intentions de l'un et de l'autre. Abel offre à Dieu les prémices de son troupeau sans s'occuper du tout de Caïn. Tandis qu'Caïn offre à Dieu les prémices de son labeur en s'inquiétant d'Abel. Je crois qu'on peut dire que Abel est tout entier ordonné à Dieu dans son adoration et dans l'offrande qu'il fait à Dieu, le sacrifice qu'il fait à Dieu. Il est comme reclus en Dieu. L'adoration nous met dans un état de réclusion à l'égard de Dieu. On est entièrement pris par Dieu et on est sous la protection de Dieu dans un véritable geste d'adoration. On est saisi et entièrement pris par Dieu. Tandis que Caïn, lui, il louche. Un œil sur Dieu, l'autre œil sur Abel. Ce qui est très impoli par rapport à Dieu. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est supérieur à vous et qui représente une autorité, normalement, quand vous vous présentez à lui, vous le regardez. Et vous ne regardez pas un autre à côté. Vous êtes attentif à lui, c'est la présence. Par l'adoration, on est présent à Dieu. Par l'adoration, on doit être tout entier présent à Dieu. Et on ne doit plus regarder que Dieu. Caïn s'inquiète parce que, je crois qu'on peut le dire, il a un sens très aigu de son droit d'aînesse. Et donc, s'il a un sens très aigu de son droit d'aînesse, Dieu doit s'occuper plus de lui que d'Abel. Or, il semble que Dieu s'intéresse beaucoup plus à Abel qu'à lui, puisque Abel ne s'occupe plus du tout de Caïn. Ça va très loin, cela. Si on est attentif à ce point de vue-là, c'est d'essayer de comprendre le geste de l'adoration que nous trouvons à travers toute l'Écriture. Et on le retrouve évidemment dans le point de vue de la loi. Et le premier commandement, c'est un seul Dieu, tu adoreras. Et donc, le point de vue de l'adoration. L'adoration apparaît à travers toute l'Écriture comme le geste fondamental de l'homme qui découvre sa dépendance à l'égard de Dieu. Donc de l'homme religieux. L'homme est fondamentalement, selon l'Écriture, est fondamentalement un être religieux. Et comme être religieux, son acte propre, c'est d'offrir à Dieu le fruit de son labeur. Et en offrant à Dieu le fruit de son labeur, il s'offre lui-même. C'est la manière même de s'offrir. Sacrifier le fruit de son labeur, c'est d'exprimer symboliquement qu'on est totalement dépendant de Dieu et qu'on reconnaît cette dépendance et qu'on aime cette dépendance. Qu'on s'en remet entièrement à Dieu. Ça, c'est le geste d'adoration. Le geste d'adoration est un geste très absolu. On est en présence de Dieu comme créature, c'est-à-dire dans une totale dépendance. On n'a plus aucun droit en face de Dieu, puisqu'on remet tout entre les mains de Dieu. Il me semble qu'on peut dire que Caïn n'a pas abandonné son droit d'aînesse. Et n'abandonnant pas son droit d'aînesse, il ne peut pas adorer vraiment. Pensez à cet autre passage, juste à l'extrémité de l'Écriture, où on voit la manière dont les vieillards, les 24 vieillards, adore. Les 24 vieillards, quand ils adorent vraiment, ils jettent leur couronne. C'est très beau comme geste, hein, et ça montre bien que je ne peux adorer Dieu que si j'abandonne tous mes droits, la couronne exprimant justement un pouvoir, une autorité. Je ne peux pas adorer Dieu en gardant mes droits. Ça va très loin, ça. Vous voyez, le haut fonctionnaire ne peut pas adorer Dieu en restant un haut fonctionnaire. Il doit reconnaître qu'il est une pure créature. Il doit jeter sa couronne. C'est pas toujours commode, hein. Parce que plus vous avez de dignité, plus c'est difficile de revenir dans cet état de dépendance radicale à l'égard de Dieu. C'est ce qui est très difficile quand, de fait, on a conscience de sa dignité, quand on a conscience de son pouvoir, de son autorité. Or, quand on est en face de Dieu, on est comme une petite créature, dans la nudité de la créature. Et donc, on n'a aucun droit. Et je ne peux adorer Dieu que si je me mets dans cet état de nudité. Dans cet état de nudité de la créature qui n'est rien en face de Dieu, qui n'a aucun droit. Si je garde des droits, je n'adore pas. L'adoration est un acte radical qui représente le premier amour de la créature à l'égard de Dieu. Puisque c'est un acte d'amour, l'adoration. On ne peut adorer Dieu qu'en l'aimant. Et on adore Dieu en l'aimant et en reconnaissant que la dépendance qu'on a à l'égard de Dieu, on la reconnaît, on l'aime. Et c'est pour ça que l'adoration vous libère de tout vous-même en vous mettant dans la vérité. Et en vous mettant dans ce point de vue de la vérité fondamentale qui consiste à reconnaître que Dieu est tout pour nous et que nous ne sommes rien en face de lui. Je crois qu'on peut dire, si je regarde tout ce que représente l'adoration telle qu'elle nous est présentée dans l'Écriture, parce qu'au fond c'est sûrement un des aspects très très importants de l'Écriture, de nous présenter l'homme adorant Dieu. C'est peut-être le leitmotiv le plus profond de toute l'Écriture. Ça ne nous est pas montré au début, vous voyez. Ça ne nous est pas montré au début. Au début, il nous est montré que l'homme est à l'image de Dieu par le dominium, l'intelligence et l'amour. Et qu'est-ce que je vois ensuite? L'homme adore. L'adoration de Caïn est désastreuse. L'adoration d'Abel est magnifique. Il y a une opposition entre les deux. Tous les deux extérieurement font les mêmes gestes. Intérieurement, je suis sûr que c'est tout à fait différent. Alors j'essaie de comprendre quelle diversité il y a de la part d'Abel et de la part de Caïn. C'est qu'Abel, lui, ne regarde que Dieu. Vous savez, on peut faire les mêmes gestes extérieurs et avoir son cœur très loin par rapport à ses gestes. Et quand on fait des gestes de sacrifice et d'adoration, il faut que le cœur corresponde à ses gestes. Et si le cœur ne correspond pas à ses gestes, c'est un mensonge. Et c'est terrible alors, puisque c'est un mensonge à l'égard d'un acte religieux, d'un acte à l'égard de Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu, hein. Dieu sait très bien, puisqu'il sonde les reins et les cœurs. On peut mentir aux autres en faisant les mêmes gestes que les autres, mais en ayant un cœur tout à fait différent, et en ayant des intentions tout à fait différentes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et c'est ce qui se passe là. On voit le discernement entre Caïn et Abel. Et donc je crois que je puis dire Caïn, lui, n'abdique pas son droit d'aînesse. Il faudrait pour lui que Abel adore son Dieu en passant par son frère aîné. Alors que l'attitude religieuse nous met tous radicalement dans une dépendance totale vis-à-vis de Dieu et en même temps dans une en une radicale indépendance vis-à-vis des autres. Je me libère de tous les autres conditionnements, et le conditionnement d'être le cadet par rapport à l'aîné, par l'adoration. L'adoration est au-delà, si vous voulez, de ce conditionnement humain qui est très important d'être l'aîné ou d'être le cadet. Ça joue quand même beaucoup, ça. Et Caïn sait très bien qu'il est l'aîné. Et donc il a des droits sur le cadet. Et le cadet ne doit agir qu'en fonction de l'aîné. Sauf quand il adore. Ça explique beaucoup de choses. Et je crois que c'est très important de voir que tout de suite on nous montre cela. Et à travers l'écriture, je dis jusqu'à l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on montre ce geste des vieillards, des 24 vieillards, qui adorent en jetant leur couronne. Alors, il faut essayer de creuser cela au plan de l'homme religieux. L'homme religieux découvre fondamentalement sa dépendance à l'égard de Dieu, et il se libère par là de toute espèce de conditionnement. Un philosophe grec, Plotin, dit cette chose très belle. Il ne pense pas directement à l'adoration, mais c'est sous-jacent. Plotin dit ceci: reconnaître sa dépendance à l'égard d'un être supérieur à nous, c'est une libération. Dépendre d'un être inférieur à nous et accepter cette dépendance, c'est une aliénation. Ça, c'est très beau. Eh bien, je crois que c'est justement ce qui se passe ici. Plotin ne pense pas du tout à Abel et à Caïn et Abel, c'est bien évident. Mais c'est intéressant de voir que l'Écriture nous met tout de suite en face de, symboliquement à travers Caïn et Abel, nous met tout de suite en face de cela. Abel accepte radicalement la dépendance à l'égard de son Dieu, il se libère de tout. Comme cadet, il est libre de son aîné. C'est extraordinaire. Quand vous êtes face à Dieu et que vous adorez, vous vous libérez de tout conditionnement humain. C'est la libération la plus grande qui soit. Caïn, lui, demeure lié à son cadet. Il veut le dominer. Quand vous voulez dominer quelqu'un qui est plus faible que vous, et que cette domination demeure pour vous comme la chose essentielle, vous vous aliénez. Et vous ne vous libérez pas. Caïn ne s'est pas libéré. Caïn, au contraire, est tombé dans une aliénation toujours plus forte. Parce qu'il n'a pas vraiment adoré. Il s'est laissé prendre au piège de sa propre exaltation. De nouveau l'orgueil. Mais un orgueil très différent, un orgueil à l'intérieur des relations fraternelles. L'orgueil est différent à l'égard de Dieu, l'orgueil peut être à l'égard d'un frère, ou à l'égard d'une sœur. On peut s'enorgueillir à l'égard de tous ceux qui sont nos égaux dans l'humanité. Comme on peut s'enorgueillir en face de Dieu. Évidemment, c'est deux modalités d'orgueil très différentes. Et c'est deux modalités d'orgueil qui montrent des deux côtés cette soif de dominer. Alors, Caïn n'a pas accepté qu'Abel passe devant lui. Caïn n'a pas accepté que Dieu semble plus attentif à Abel qu'à lui, alors que Dieu aurait dû respecter l'ordre naturel du droit d'aînesse. Et Dieu n'a pas respecté, au dire de Caïn, le droit naturel du droit d'aînesse. Parce que Dieu est Dieu. Et que l'ordre naturel du droit d'aînesse, très bien, au niveau humain, au niveau social, au niveau politique, mais pas au niveau religieux. L'attitude religieuse a quelque chose de plus fondamental, quelque chose de beaucoup plus radical. N'acceptant pas cette humiliation que l'autre est plus aimé, la jalousie va naître. La jalousie naît toujours d'une curiosité qui n'est pas normale.